Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Qu'est-ce que j'ai dit à Elon Musk ?
Vous voulez venir en Europe ? On va avoir des règles et les voilà.
Il faut que nous ayons un cloud souverain.
La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise.
Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution ? Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré.
Signaux faibles, le podcast de Siècle Digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 12 mars 2024. Bienvenue dans Signaux Faibles. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, plusieurs ministères français ont été visés par des attaques informatiques d'une intensité inédite ces derniers jours. Deuxième actualité, c'est fait, le Conseil européen a adopté le projet de loi sur les travailleurs de plateforme et leur statut. Semi-conducteurs ensuite, les États-Unis soutiennent les Philippines pour réduire la concentration géographique dans ce secteur. Et enfin, la startup Inflection lance un modèle aussi puissant ou presque que GPT-4. Voilà pour le programme, un peu de tout aujourd'hui. Allez, c'est parti tout de suite, bonne écoute. Vous avez dû en entendre parler. Depuis dimanche soir, plusieurs ministères français et agences gouvernementales sont victimes d'une cyberattaque importante. Ce matin, l'impact de l'opération a été réduit, mais Matignon a dit se préparer au cas où l'intensité repartirait à la hausse. L'attaque a été revendiquée par le groupe Anonymous Soudan, un groupe de cybercriminels notamment connu pour être pro-russe. Sur Telegram, les hackers parlent d'une cyberattaque massive. Toujours selon eux, ils auraient perturbé les services du ministère du Travail, de la Culture, de la Santé, de l'Économie, de la Transition écologique, mais aussi des services du Premier ministre. Matignon a d'ailleurs annoncé que, je cite, « plusieurs services de l'État font l'objet d'attaques informatiques dont les modalités techniques sont classiques, mais l'intensité inédite ». Alors, une question se pose. Comment Anonymous Soudan a réussi à atteindre autant de ministères ? Selon Numérama, le réseau interministériel de l'État, dit RIE, aurait été visé. Plusieurs employés d'un ministère ont reçu un mail indiquant, je cite, « Nous tenons à vous informer que le réseau interministériel de l'État est la cible d'une cyberattaque ». Anonymous Soudan aurait, pour mettre hors service le RIE, mené une attaque par déni de service, ou DDoS. Attention, petit point définition. Une DDoS, c'est une attaque informatique consistant à saturer de requêtes une plateforme ou un site internet. Donc, quand vous lancez une DDoS, vous simulez une grande quantité de connexions en même temps vers un site pour le saturer et le faire planter, bref, l'empêcher de fonctionner. Alors, on ne connaît pas vraiment les motivations du groupe, hein. Comme je vous le disais, il est pro-russe et n'hésite pas à attaquer les ennemis de Moscou. On peut donc penser qu'il s'agit, par exemple, d'une réaction aux récents propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré ne pas écarter l'envoi de troupes en Ukraine. Ça n'avait pas plu au Kremlin. Nous aurons peut-être plus de précisions dans les heures et les jours à venir. Une cellule de crise a été activée dimanche soir selon Matignon et la DINUM, Direction interministérielle du numérique, ainsi que l'ANSSI ont été sollicitées. Le parquet de Paris, lui, a ouvert une enquête. L'ampleur impressionnante de ces attaques n'a pas de quoi rassurer. Mais dans un monde toujours plus numérique, au contexte international tendu, ce n'est pas vraiment étonnant. Toutefois, ça posera forcément la question de la préparation des services de l'État et de la modernisation de leurs infrastructures. Surtout que les Jeux Olympiques approchent, une période particulièrement propice aux cyberattaques. Il faut s'attendre à une nouvelle explosion de ce genre d'attaques et bien d'autres encore durant les Jeux. Ça y est, le Conseil européen a enfin adopté lundi la directive européenne sur les travailleurs de plateforme et leur statut. Mais ça ne s'est pas fait à n'importe quel prix. Cette loi a pour but d'améliorer les conditions de travail des livreurs et des chauffeurs VTC, notamment via un changement de leur statut. Habituellement, ils ont celui d'indépendant. Mais cette directive doit permettre la requalification en salarié. Plusieurs millions de travailleurs sont concernés sur le vieux continent. En décembre, le Conseil et le Parlement étaient parvenus à un accord et un texte provisoire, mais quatre pays membres n'ont eu de cesse de ralentir le parcours de ce texte et de tenter de l'assouplir, pour ne pas dire d'en éviter l'adoption. Ces pays, ce sont la France, l'Allemagne, la Grèce et l'Estonie. Et depuis des semaines, c'est au niveau du Conseil européen que ça coinçait. Un véritable problème à l'approche des élections européennes en juin. Du coup, une nouvelle tentative a eu lieu hier, un peu celle de la dernière chance. Sur le fil, l'Estonie et la Grèce ont changé d'avis, isolant l'Allemagne et la France. Résultat, les 25 ministres du Travail du Conseil ont voté en faveur du texte, sauf les ministres français et allemands qui se sont abstenus. Au final, par rapport à l'accord provisoire de décembre, il y a eu des modifications, et pas des moindres. Par exemple, il prévoyait que pour être requalifié en employé, en salarié, il fallait remplir au moins 2 conditions sur 5 définies précisément dans l'accord. Parmi ces critères, pêle-mêle, la plateforme qui fixe le niveau de rémunération, supervise les performances ou encore ne permet pas à ses employés de choisir leurs horaires. Mais la dernière version supprime ces critères. Ainsi, chaque pays pourra décider par lui-même si un travailleur doit être considéré comme un salarié ou non. Libre aux plateformes ensuite de contester les décisions prises en prouvant que ces travailleurs sont indépendants. Aussi, les travailleurs devront être informés de l'utilisation faite de leurs données personnelles. Autre mesure, les plateformes ne pourront plus utiliser des systèmes automatisés de surveillance. L'adoption de ce texte et de toutes ces mesures, c'est une victoire pour de nombreux élus de gauche. Leïla Chebbi, députée européenne du groupe de la gauche, très investie dans ce texte, a toutefois tenu à qualifier Emmanuel Macron de lobbyiste pour Uber. Une référence à la position de la France et à la mise en cause du président de la République dans les Uber Files pour avoir favorisé l'implantation d'Uber en France. Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, ainsi que les syndicats des travailleurs se sont réjouis de l'accord. A l'inverse, MoveEU, qui représente les plateformes, déplore l'adoption de la loi. La suite, c'est un délai de 2 ans pour que les États membres intègrent cette loi et la transposent au niveau national. Soit ils l'adoptent en l'état, soit ils y intègrent de nouvelles mesures permettant de mieux définir ce statut de salarié. En France, on peut déjà parier que c'est la première option qui sera choisie. Les États-Unis ne veulent plus de la concentration géographique dans l'industrie des semi-conducteurs. Aux Philippines, la secrétaire au commerce Gina Raimondo s'est exprimée pour dresser un constat. Elle a dit, je cite, « Notre chaîne d'approvisionnement en puces est bien trop concentrée dans quelques pays dans le monde ». Cette industrie est en effet historiquement concentrée en Asie, pour l'essentiel, notamment Taïwan et la Corée du Sud, ce qui peut compliquer l'approvisionnement d'autres pays comme les Européens et les États-Unis, surtout en cas de situation comme pendant la pandémie et la pénurie de puces. La plupart des grandes puissances de la planète ont donc décidé de se lancer dans une course à la souveraineté en puces. Objectif, attirer les entreprises du secteur à coup de subventions et être moins dépendant de l'Asie. C'est l'un des objectifs des CHIPS Act américains et européens. La Chine concentre elle aussi une part de la production, et ses relations avec le pays de l'oncle Sam, vous le savez, ne sont pas au beau fixe. Notons également que ce discours a été prononcé aux Philippines. Et ça, ça ne doit rien au hasard. Ce pays s'intéresse de plus en plus, comme bien d'autres de ses voisins, aux étapes de production nommées assemblage, test, conditionnement, une partie moins coûteuse que le reste de l'industrie. Gina Raimondo a donc encouragé les Philippines à doubler son nombre d'usines de puces, actuellement à 13. À la faveur des tensions avec la Chine, les liens entre Philippines et États-Unis se renforcent ces derniers temps. Pour les Américains, ça tombe bien, un renforcement de ce pays dans ce secteur nuirait à la Chine. Un peu d'intelligence artificielle pour terminer. Ce domaine, vous n'êtes pas sans le savoir, est dominé par OpenAI et son LLM GPT-4 alimentant ChatGPT. Les concurrents ne cessent de se multiplier, espérant tous rivaliser bientôt avec la start-up de Sam Altman. Eh bien, une compatriote nommée Inflection AI affirme dorénavant pouvoir concurrencer GPT-4. La jeune pousse a dévoilé une mise à jour de son LLM, Inflection 2.5, qui alimente son outil, Pi, sorte de ChatGPT bis. Pi peut coder, écrire un texte, vous aider dans votre organisation, etc. Inflection 2.5 est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Pi sur pi.ai, sur iOS ou encore sur Android. La société a affirmé, je cite, « Inflection 2.5 approche les performances de GPT-4, mais n'utilise que 40% de la quantité de calcul pour l'entraînement. » Avec les tests réalisés, elle veut montrer qu'Inflection 1 a atteint, en moyenne, environ 72% du niveau de GPT-4. De son côté, Inflection 2.5 aurait atteint plus de 94% des performances de GPT-4 sur différentes tâches. 6 millions d'utilisateurs mensuels ont pour le moment recours à Pi, qui intègre d'ailleurs la recherche en temps réel sur le web. Il est clair qu'avec cette nouvelle version, Inflection veut s'affirmer face à OpenAI et prouver sa capacité à rivaliser. Mais s'il n'y avait qu'OpenAI, ce serait presque trop facile. Anthropic a récemment dévoilé Claude 3, une série de LLM qui serait meilleure que GPT-4. N'oublions pas Gemini 1.0 Ultra de Google et la française Mistral AI avec son modèle Mistral Large. Bref, la concurrence augmente et ne va faire qu'augmenter. Pour autant, la fin du règne d'OpenAI ne semble pas pour tout de suite. C'est déjà la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.